Chapitre 39. Bonne nouvelle. Mordelia montait avec prudence l'escalier du donjon, ses dents de la canne au diamant. Elle se méfiait des marches glissantes que 30 générations de rois et de reines avant elle avaient empruntées. « Ne pas tomber, » pensa-t-elle. « Pas maintenant, ce serait trop bête. » Elle essayait de ne pas accélérer, de continuer au même rythme. Malgré sa colère, Bill lui avait désobéi. Bill avait épargné cette sotte de crisante et l'avait installée chez lui. Elle atteignit la salle à manger du premier étage et ralentit. Les 7 privilégiés s'affairaient à maintenir un buffet permanent à peu près présentable. Mais il y avait fort à faire face aux convives qui se bousculaient autour de la table. « Une sacrée ménagerie, » constata Mordelia. « Un ramassis de criminels sans scrupules et d'ordures en tout genre. » Les ombrageurs, les promus corrompus, les gardes civils les plus serviles, et le pire de tous qui s'empifferait pour deux, Crobleu. En reprenant son ascension vers le deuxième étage, elle comprit qu'elle avait commis une erreur. Ce prémat tatoué dégénéré n'aurait eu aucune hésitation à tuer cette fille à la poupée. C'était à lui qu'elle aurait dû confier cette mission. Crobleu était aussi cinglé qu'un chien enragé. Sa santé mentale avait encore empiré depuis qu'il avait assassiné son maître, même si, par le miracle des crèmes et pansements des savants, sa figure monstrueuse était devenue un peu plus supportable. Il passait la moitié de son temps à se regarder dans un miroir et à se sourire, comme s'il découvrait un prince charmant dans son reflet. Mordelia lui avait également promis des canines et des incisives aussi blanches que des dents de lait de nourrisson. Elle avait confié la mission à Galien, un savant prétentieux spécialisé dans les expériences douteuses sur les animaux. Il avait 2 semaines pour trouver une solution, avant de se retrouver lui aussi au donjon. Crobleu, plus que jamais, était un fauve sans collier, mais il n'obéissait plus qu'à une maîtresse désormais, et tous les prémats obéissaient à ce monstre, qu'il ait les dents bleues ou pas, même les 7 privilégiés. Mordelia fit une pause à mi-étage. La montée l'épuisait. Elle détestait se sentir ainsi, faible, diminuée. Elle chassa rapidement cette contrariété, c'était juste un mauvais moment à passer. Dans 4 mois, au birthday, tout serait terminé. Elle reprit l'ascension, toujours furieuse contre Bill. Éliminer cette crisante serait difficile maintenant. Bill en avait fait sa servante personnelle. Ce crétin s'était attaché à elle. Bill était un sentimental dans son genre, et elle devait le reconnaître. C'est à cause de cette sensibilité qu'elle avait besoin de lui. Toutes ces canailles attablées à la salle à manger, elle ne les tenait que par le goût du sang et l'éclat des lunes. Bill, lui, se fichait de tout cela. Bill était idéaliste et fidèle, comme elle. Elle atteignit enfin le palier du 2e étage. Une ombre se précipita sur elle et la fit sursauter. Jamais tranquille. Un privilégié, Sam ou Dim ou Lundi, elle était incapable de se souvenir de leur foutu nom. Il remettait chaque matin en main propre la feuille de chou du jour, comme elle l'avait ordonné. Elle fit signe à Sam, Dim ou Lundi de disparaître et jeta un bref coup d'œil au titre du quotidien avant de jeter la feuille verte par terre. Décidément, cette feuille de chou devenait du grand n'importe quoi, avec ses prévisions météo ridicules et ses articles sans aucun intérêt sur la couleur des fleurs. Les arbres frappés par la foudre, la naissance d'une couvée de chatons sous le tipi, ou des conseils pour rester bien coiffé tout en portant un bonnet, ou mieux, une cagoule de garde civile. Cette constelle se moquait d'elle. Il était temps de s'en débarrasser, et de la remplacer par des journalistes qui sauraient décrire avec talent ce qu'il y avait de plus beau dans l'ordre nouveau. La porte de la cellule de Génor était en permanence surveillée par 3 gardes cagoulés. C'était le principe de base de ce que Mordelia appelait le contrôle circulaire. Un garde seul aurait pu la trahir et tenter de secourir au Génor. 2 gardes pouvaient discuter et devenir complices, mais à 3, le premier qui ouvrait la bouche pour comploter courait immédiatement le risque d'être dénoncé. « Ouvrez-moi la porte !» ordonna la reine. Matricule 16 sortit un épais trousseau de fer, la serrure cliqueta. « Attendez dehors !» Les gardes ne discutèrent pas et laissèrent Mordelia seule dans la pièce en compagnie du grand cerf. Génor était assis sur un tabouret, le dos droit et les jambes pendantes, molle comme une queue de sirène. Le visage du conseiller, malgré ses 10 semaines de captivité, ne s'était pourtant pas creusé. Ses yeux conservaient leur agilité de rapace. Son nez, ses joues, son menton n'avaient rien perdu de leur dureté, comme taillés au couteau. Son corps lui-même s'était musclé sans s'amaigrir. Les gardes racontaient que Génor pratiquait beaucoup de sport, des tractions, des pompes, et tous les exercices de gymnastique ne nécessitant pas d'autres appuis que ses mains, ses bras et ses poignets.
« Si ça l'amuse, » pensa Mordelia.
Apparemment, au moment où elle était entrée, Augénor était occupé à déchiffrer, malgré la faible luminosité, les graffitis du mur de sa cellule. Il devait connaître par cœur ces pauvres mots gravés, presque illisibles, sans doute davantage griffonnés par des collégiens peu avant le passage du nuage que par des rois ou reines emprisonnés des siècles plus tôt. Le grand cerf leva les yeux vers elle avec la même désinvolture que si elle l'avait dérangé dans son bureau, alors qu'il était occupé à lire un rapport de la plus haute importance.
« Majesté, » fit-il, « vous désirez. »
Mordelia n'avait pas envie de jouer.
« N'en fais pas trop, on est seuls tous les deux, j'ai hâte de parler. »
« Je t'écoute. »
Il paraissait presque lui accorder une faveur. Mordelia veilla à se tenir à bonne distance, serrant la canne entre ses 10 doigts. Son ancien conseiller aurait été capable de l'étrangler s'il avait pu marcher. Tout le monde savait que Génor n'avait pas la force de tenir sur ses jambes. Malgré tout, elle s'était toujours méfiée. Ce garçon était tellement fourbe qu'il aurait pu simuler son handicap depuis des années. Elle recula prudemment pour rester proche de la porte et commença en douceur.
J'espère que tu apprécies le lieu que j'ai choisi pour ta captivité. Des prisonniers illustres se sont succédés ici. Emprisonnés par le roi, sur une simple lettre de cachet. Comme toi. Tu voulais ta place dans l'histoire, la grande histoire, eh bien remercie-moi, tu l'auras.
Quelle générosité, majesté!
Mordelia savoura. Augénor n'avait plus rien d'autre que son ironie à lui opposer.
Vois-tu, poursuivit la reine, tu as commis une erreur, une seule. Me sous-estimer.
Comme tu as toujours sous-estimé ceux du Tipi.
Tu n'as pas sous-estimé mon intelligence, je crois, ni ma détermination. Ce que tu as sous-estimé, c'est ma haine. Je vais te faire un aveu. Sais-tu comment elle est née?
Génor répondit sans réfléchir.
Évidemment, c'est moi qui l'ai allumé, en laissant traîner ce livre près du tipi il y a des années. Iliade, ce si beau récit de guerre pour que tu en rêves jour et nuit et que le moment venu, tu viennes nous affronter.
Mordelia triompha.
Raté. Tu vois, j'avais raison. Tu m'as tellement sous-estimé. Cette guerre de Troie est une fable. Même Bill aurait du mal à croire à cette histoire de cheval de bois et de dieu qui s'entretue. Non, Augénor, cette haine est née d'un autre livre. Un livre que tu n'as jamais ouvert, même si tu l'as tenu un instant entre tes mains. Un livre que tu as brûlé, mais les mots que j'y ai lus, sont restés gravés. Ce que je vais te raconter, je ne l'ai jamais avoué à personne. J'avais 7 ans, peut-être 8, on ne comptait pas encore les birthdays alors. J'étais l'une des rares enfants du tipi à savoir lire. J'étais déjà solitaire. Je me promenais souvent seul en forêt. C'est ainsi que j'ai découvert la cabane de cette Luponera. Je me fichais bien de cette petite sauvage qui vivait comme une guenon, mais ce cahier qu'elle gardait dans sa cachette, lui, me fascinait. J'avais tout mon temps, il n'a pas été difficile de le lui voler, un matin où elle était partie pêcher. Elle passait beaucoup de temps à nager dans le lac. Tu noteras d'ailleurs que j'ai toujours su que notre enfant sauvage n'avait, comment dire, pas de zizi. Mais un Luponero était plus utile pour faire peur à mes 6 crédules amis du tipi qu'une Luponera. Ce pauvre Valère, bourré de hard dog, a cru la trahir, mais il ne m'a rien appris. Tu croyais me manipuler, mais c'est moi qui ai toujours eu une longueur d'avance sur toi.
Je ruminais ma vengeance sur vous, les enfants élus du château. Sur toi, l'enfant maudit de ce monstre de marée-lune. C'était de ceux qui ont failli mourir de froid la nuit de la pyramide, de ceux qui ne comptaient pas plus que des chiens errants, de ceux qui devaient être sacrifiés pour que votre nouveau monde soit parfait. Mais contrairement à tous les autres, je savais. J'avais découvert la vérité, du moins presque toute la vérité.
Mordelia se rendit compte qu'elle s'était laissée entraîner par son récit et avait relâché sa vigilance. Ogénor n'avait pas bougé pourtant, rien tenté. Il demeurait silencieux, l'écoutant calmement, sagement, tel un élève studieux. Était-ce une stratégie pour la déstabiliser? Que pouvait-il penser? Il échafaudait forcément un plan pour s'échapper.
Elle se colla plus encore à la porte qu'à nos poings. Si miraculeusement Ogénor se levait sur ses deux pieds, elle frapperait, les gardes entreraient.
Presque toute la vérité, continua la reine, car il me manque encore une pièce du puzzle. Où se trouve ce fameux laboratoire, Utopie, celui de tes chers parents? Fort heureusement, en ce moment même, nos amis communs, Zizo et sa bande de pseudo-résistants, travaillent pour nous, dans les catacombes de Paris. J'ai de bons espions. Les pauvres se sont transformés en rats d'égout depuis des mois, entassés dans un bloc de béton nommé « Salle Z ». Je peux les éliminer quand je veux, mais tant qu'ils restent sous terre, ils ne sont guère dangereux. Et si quelqu'un doit trouver ce foutu labo, ce sera eux. À moins que ta maman ne t'ait laissé un indice supplémentaire que nous ignorons tous.
Ogénor demeura impassible, paraissant ne même pas avoir entendu la question.
Bien sûr, tu ne diras rien, je m'en doutais. Et je ne suis même pas certaine qu'une cure de speed verte te ferait parler.
Peu importe, faisons confiance à nos petits héros explorateurs. Il faut bien qu'ils aient eux aussi leur part de gloire dans cette histoire.
Mordelia s'autorisa une brève pause, goûtant une nouvelle fois toute la saveur de la situation. Elle se revit 2 ans auparavant, presque mourante dans la forêt sous une tempête de neige, seule et abandonnée. Elle avait tant rêvé des mots qu'elle allait prononcer maintenant. Elle les avait répétés tant de fois dans sa tête. Elle avait tellement imaginé le visage épouvanté d'Ogénor quand elle lui enfoncerait dans la gorge.
« J'ai 2 bonnes nouvelles !» fit-elle.
Ogénor souriait encore. Depuis le début de leur conversation, il n'avait pas eu un seul regard pour sa canne et son précieux diamant, le régent, ce joyau unique possédé depuis des siècles par chaque roi, jamais par une reine. Mordelia jubilait à l'avance du moment où cette fausse indifférence et ce sourire méprisant se transformeraient en grimace de désespoir.
Je suis certaine que tu vas apprécier la première. J'ai trouvé une idée pour remplacer votre vieux tournoi de l'étoile. Je sais que tu aimes les symboles forts et les mises en scène spectaculaires. J'ai encore 15 jours jusqu'au jour de l'équinoxe. Heureusement, car ça demande un peu de préparation. On va devoir déboulonner la statue de Marie-Lune devant Versailles. Franchement, notre maman a tous. Qui pourrait encore croire à cette fable? On a tous 16 ans.
Ogénor n'avait pas bronché.
Et à la place, tu vas adorer, j'ai décidé d'installer une guillotine. Tu vois? Comme sous la Révolution française, les décapités du cimetière de Picpus. Enfin, tu es un enfant du château, tu connais tout ça sur le bout des doigts. Donc, bref, nous allons installer une jolie guillotine que les savants, et en particulier Galien, n'ont eu aucun mal à mettre au point. Et petit chanceux, c'est toi que j'ai choisi. Tu seras celui qui l'inaugurera. Une jolie lame toute neuve pour te trancher le cou. Te rends-tu compte, mon grand cerf? Tu seras à jamais le premier natif du Nouveau Monde à être décapité. Tu resteras dans les livres d'histoire, comme Louis XVI ou Marie-Antoinette, avec une foule immense pour regarder ta tête tomber dans un panier d'osier. Qu'en penses-tu? Tu as peut-être des suggestions? Un costume préféré? Une petite phrase à prononcer? Tout ce que tu veux, après tout. Il s'agit de ta postérité.
Aucun trait du visage d'Ogénor ne bougea. Mordelia, déçue, en rajouta.
Je pensais demander à Leonarda de peindre la scène et à Soutim de composer un requiem. À moins que tu ne préfères un morceau de New World,
Augenor ne réagissait toujours pas. Il paraissait même s'ennuyer, comme s'il était pressé de retourner à la lecture de ses graffitis. Mordelia, malgré elle, était obligée d'admirer la force de caractère du garçon assis sur son tabouret. Aucune partie de son corps n'avait bougé, pas même frissonné, comme s'il était taillé dans le plus dur des bois. Mais ça n'empêcherait pas une lame de lui trancher le cou, ni Mordelia de lui enfoncer dans le crâne un second clou.
« Oh, j'allais oublier. Je t'avais parlé de deux bonnes nouvelles. Celle-ci est plus inattendue que la première. Quoique, après nos petits jeux à tous les deux dans les lits royaux de nos chambres pendant ces longues semaines entre la grande battue et la veillée du sanctuaire, c'était tout de même une possibilité à ne pas écarter. »
La reine posa la canne, plaqua ses deux mains bien à plat sur son ventre et écarta les doigts.
« Tu vas être papa !»